Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Hey, regarde, on voit la grande ours. Comment ça, la grande ours? Il y a des ours ici? Et franchement, est-ce que ça vous fait penser à une ours? Moi ici, je vois plutôt une casserole ou un chariot. Eh oui. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve cette vision d'une ours ici chez des peuples très variés, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, qui avaient été séparés les uns des autres depuis très longtemps. Et donc il est probable que ça vient d'une ancienne mythologie du temps où nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Et oui, les peuples qui sont à l'origine de ce nom ne connaissaient certainement ni casserole ni chariot, mais ils connaissaient les ours. Et même parfois, ils en dessinaient sur les parois des grottes, comme ici à la grotte Chauvet. Alors, ce n'est pas étonnant qu'ils aient aussi dessiné des animaux sur le ciel, et qu'ils y aient projeté leurs croyances, leur divinité peut-être. On a peuplé le ciel de puissances magiques. Si par exemple vous regardez le ciel en début de nuit en ce moment vers l'ouest, vous verrez sans doute, si le ciel est dégagé, cette figure facile à repérer. C'est la constellation d'Orion. Les Grecs voyaient ici la silhouette d'un chasseur, Orion, qui, avec son chien derrière lui, ici, avec l'étoile Sirius, se bagarre avec le taureau. Alors il faut dire qu'Orion avait eu des problèmes avec les autorités divines. Comme vous voyez sur cette mosaïque qu'on a retrouvée récemment à Pompéi, la déesse Héra lui avait envoyé un énorme scorpion pour le piquer. Orion meurt, du coup il lui pousse des ailes, il monte au ciel, et le scorpion aussi. Mais pour éviter les embrouilles, Zeus intervient et envoie le scorpion complètement de l'autre côté du ciel. Alors voyez, si on avait dû inventer les constellations à la fin du XXe siècle, on aurait peut-être eu ça, ou même ça, et pourquoi pas ça.
Alors bien sûr, ce qu'on appelle les constellations, ce sont des regroupements très arbitraires d'étoiles dans le ciel. Ça n'a aucun sens physique. Les étoiles de la Grande Ourse ou celles d'Orion, par exemple, sont à des distances très différentes de nous. Et si on les regardait d'un autre endroit de l'univers, on ne les verrait pas du tout ensemble. Alors, ces constellations, on les a quand même gardées, avec leur nom ancien, Orion, la Grande Ourse. Parce que, finalement, ils sont bien pratiques pour se repérer, pour repérer les étoiles dans le ciel. Et finalement, elles nous rappellent les couches successives d'histoire qui se sont succédées dans le ciel, superposées, et qui mélangent allègrement les civilisations. Les noms des constellations viennent des Grecs, des Babyloniens. Les étoiles ont des noms arabes. Et il y a même dans l'hémisphère sud des constellations nommées par les Européens au XVIIIe siècle avec des noms comme la machine pneumatique, le microscope ou même la mouche.
Ici, Sur ce tableau du peintre italien Giotto, vous voyez Jésus qui monte au ciel rejoindre son papa. Les grandes religions, bien sûr, se sont emparées du ciel pour raconter leurs propres histoires. Là, c'est une sourate du Coran, avec un verset qui dit à propos des étoiles « Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires, dont nous faisons des projectiles pour lapider les démons, auxquels nous avons préparé le supplice de l'enfer. » Donc voyez, toutes les cultures ont essayé de donner un sens à ce qu'on voyait dans le ciel. Quelque chose d'extraordinaire, d'inaccessible, qu'il fallait bien essayer de décrypter d'une manière ou d'une autre. En fait, dès le début des premières civilisations, quand le travail des paysans a permis d'entretenir une classe privilégiée avec un clergé, comme ici en Égypte, une des tâches de ce clergé a été d'observer le ciel. Il devait gérer le calendrier, par exemple. Certains sont devenus des astronomes professionnels, chargés, par exemple, de prévoir le retour des crues du Nil. Une fois par an, le Nil déborde. C'est très important pour l'agriculture. Et les astronomes avaient remarqué que ces crues se produisaient à peu près au moment où l'étoile Sirius se lève en même temps que le Soleil. Donc, on voyait des régularités. On commençait à prévoir les éclipses. Tout cela a été un progrès pour l'humanité. En Chine, pendant 4000 ans, les astronomes ont consigné tout ce qui se passait dans le ciel, ou à peu près. Ce registre mentionne l'apparition d'une étoile nouvelle, en 1054. En Europe, à l'époque, on ne s'est aperçu de rien, ou en tout cas, on n'avait rien noté. Mais les astronomes chinois avaient observé consciencieusement l'événement. Ils avaient noté précisément la date et l'endroit où s'était allumée l'étoile. Aujourd'hui, on a compris que ce n'était pas une nouvelle étoile, mais une étoile en fin de vie qui explosait, une supernova. Et à la place de cette étoile, aujourd'hui, on observe ça, qui est la bulle de matière en expansion issue de l'explosion. Alors, si l'État chinois a entretenu des astronomes pour faire ça pendant des siècles, ce n'était pas pour l'amour de la science seulement. Ils étaient au service du pouvoir. Pour les anciens Chinois, le ciel, c'est le reflet de la hiérarchie terrestre. Au pôle Nord, on a le palais de l'empereur du ciel, avec sa cour autour. Ensuite, une série de murailles, ses conseillers, et le peuple est loin vers l'équateur. Il y a même une prison céleste pour les mauvais sujets. Sur le fond du ciel, on s'était rendu compte qu'on avait des astres errants, qui se promenaient avec des mouvements bizarres. On les a appelés les planètes, et on leur a donné des noms de la mythologie à elles aussi. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Comme les mouvements des planètes étaient assez compliqués, on s'est dit qu'elles nous adressaient des signes, et qu'elles influençaient forcément la marche du monde. C'est l'origine de l'astrologie. À cette époque, cette croyance au pouvoir des planètes a finalement aidé la science à progresser. Parce que par rapport aux caprices des dieux, qui pouvaient envoyer brusquement la foudre, des tremblements de terre et diverses calamités, comme ici l'épidémie de peste, sans qu'on puisse l'anticiper, finalement, avec les planètes, on s'est rendu compte assez vite que leurs mouvements bizarres n'étaient pas complètement imprévisibles. Déjà, les planètes ne se déplaçaient que dans une bande assez étroite du ciel, qu'on a appelée le zodiaque, puisqu'on l'avait peuplé d'animaux, le taureau, le bélier, le sagittaire, la balance. Jamais on ne les voyait ailleurs. Et puis avec l'observation, on a rapidement vu qu'il y avait d'autres régularités, et que les mouvements obéissaient à des règles mathématiques.
Alors aujourd'hui, l'astrologie est uniquement un business qui exploite la crédulité ou peut-être l'envie de se sentir rassuré par la protection d'une bonne étoile. Mais à l'époque où l'astrologie est née, on voyait dans les planètes des puissances bénéfiques ou maléfiques parce qu'on n'avait pas les moyens d'imaginer que c'était des corps matériels. Et que ce soit pour prévoir le destin, ou pour établir des calendriers, ou aider à la navigation, eh bien, les savants faisaient déjà ce qu'on peut appeler de la science. Ils mesuraient le plus précisément possible les positions, faisaient des tables, et faisaient des calculs mathématiques, géométriques, de plus en plus sophistiqués, pour prévoir à l'avance le mouvement des planètes.
Au Moyen Âge, le système le plus abouti était celui qu'avait imaginé Ptolémée à Alexandrie, à la fin de l'Antiquité. La Terre est au centre du monde, tout tourne autour d'elle, et pour expliquer le mouvement des planètes, Ptolémée avait introduit des systèmes d'engrenages, de cercles compliqués. Comme ça marchait assez bien, ce système a été adopté par l'Église catholique et par le monde musulman. Il a servi pendant tout le Moyen Âge non seulement à prévoir les éclipses, mais aussi pour les calendriers, ou la cartographie, ou la navigation. Tout cela s'est développé dans une société imprégnée par la religion. Mais bien sûr, les réflexions des savants remettaient souvent en cause les dogmes, et notamment dans le monde musulman, qui était plus avancé que les pays chrétiens. Lui, c'est Averroès, au XIIe siècle. Il était médecin, philosophe, et il pensait que l'expérience, la mesure, était une source de vérité aussi valable, voire plus, que les livres religieux. Et devinez quoi? Ça lui a valu des problèmes. Il a été accusé d'être un hérétique, et on l'a chassé de sa ville de Cordoue, en Andalousie. Ici, vous voyez une université fondée à Samarcande, en Asie centrale, par le sultan Ulugh Beg. Il était d'origine mongole. C'était même le petit-fils de Tamerlan. Mais curieusement pour un sultan, il était plus intéressé par les sciences que par décapiter les gens. Ulugh Beg, vers 1425, s'est fait construire à Samarcande le plus grand observatoire du monde. À l'époque, on n'avait pas de lunettes ni de télescopes, tout était observé à l'œil nu. Mais on construisait d'immenses cadrans pour mesurer avec le plus de précision possible les angles et les positions du soleil et des étoiles. Après sa mort, l'observatoire d'Ulugh Beg a été détruit, mais on peut encore voir aujourd'hui à Samarcande cet immense cadran enterré. Il paraît qu'au fronton de cet observatoire, il y avait écrit « Les religions se dissipent, telle la brume du matin. Les royaumes s'effondrent, telle la dune sous le vent. Seule la science s'inscrit dans le bronze de l'éternité. » Ça peut paraître étonnant, car on nous présente d'habitude les religions comme éternelles, c'est en tout cas leur prétention, et la science comme quelque chose qui change avec le temps. Mais en fait, les intellectuels de l'époque voyaient bien que la science, les connaissances sur les étoiles, par exemple, pouvaient passer d'une civilisation à une autre. Il y avait des ouvrages qui circulaient dans tout le monde civilisé, qu'on recopiait, comme ce manuscrit du livre des étoiles fixes d'Al-Soufi. À Samarcande, on était bien placé pour comprendre cela, puisqu'on était sur la route de la soie, à la limite entre le monde musulman, le monde persan, le monde chinois et les Mongols. Donc les étoiles, les planètes et leurs lois étaient les mêmes pour tous. Et d'ailleurs, avec les observations faites à Samarcande, on a fait des tables, qu'on a appelées tables sultaniennes, qui sont arrivées en Occident par la suite.
Alors justement, revenons en Occident. C'est là qu'a eu lieu une étape très importante, où la science a commencé à gagner son indépendance par rapport à la religion. C'est en Europe, à partir de 1450, avec ce qu'on appelle la Renaissance.
À la Renaissance, on peint des belles dames, on sculpte des beaux messieurs, mais on remet aussi en question les dogmes. au début des années 1500. Copernic, qui était un dignitaire assez important de l'Église polonaise, proposa son système en imaginant que ce n'était pas la Terre qui était au centre du monde, mais qu'elle tournait autour du Soleil. Ce n'était pas tout à fait le premier à imaginer cela, mais dans ces années-là, le dogme catholique, solide comme le roc, c'était bien sûr l'inverse, que la Terre était immobile au centre du monde. C'est ce qu'avait enseigné Aristote, Ptolémée, et l'Église avait intégré ça dans sa doctrine pour l'éternité. C'est une bagarre qui va durer presque 2 siècles et qui va devenir un enjeu politique. On ne peut pas remettre en question la conception du ciel sans remettre en question l'autorité de l'Église. Et c'est ce qui vaudra à Giordano Bruno d'être brûlé à Rome par l'Inquisition en 1600. Non seulement Bruno avait défendu le système de Copernic, mais il avait été bien plus loin. Il avait affirmé que l'univers était formé de corps matériels, que la Terre était une planète comme une autre, le Soleil une étoile comme une autre, et qu'une multitude d'autres mondes habités devaient exister ailleurs. C'était des idées très novatrices. Mais un peu quand même dans l'air du temps. Presque au même moment, en Italie aussi, en 1610, Galilée utilisait une lunette, qui était une invention récente, pour observer le ciel. Et vous le voyez ici annoncé qu'il a vu des montagnes sur la Lune et des taches sur le Soleil. C'était une vraie révolution. Ça confirmait au moins en partie l'intuition de Bruno. Ça voulait dire que les puissances du ciel sont matérielles. Il n'y a pas d'un côté le monde terrestre périssable, de l'autre le domaine des dieux. Galilée va donner des bases physiques au système de Copernic. Il va faire des expériences sur la chute des corps, sur le mouvement, et à partir de ces expériences, il va expliquer pourquoi on ne sent pas le mouvement de la Terre qui nous emporte. C'était un point important, parce que les partisans d'une Terre immobile argumentaient que si la Terre était entraînée dans l'espace autour du Soleil, comme le prétendaient Galilée et Copernic, elle devrait aller à une vitesse folle, et en plus elle tournerait sur elle-même. Alors comment est-ce possible qu'on ne sente pas ce mouvement? Galilée répondit à tout cela à partir d'expériences terrestres. Donc, il supposait qu'on pouvait déduire des choses sur le ciel, par exemple à partir du mouvement de boules en bronze sur un plan incliné. Ça aussi, tout le monde ne l'admettait pas. Et c'était assez audacieux quand on y réfléchit.
Et oui, c'était la naissance de la science moderne. L'idée qu'il y a des lois physiques qu'on peut tester en laboratoire. Ce développement de la nouvelle physique correspondait à des nouveaux besoins de la société. Galilée se promenait sur les chantiers navals à Venise. Il voyait les menuisiers, les ouvriers. On fabriquait à cette époque des machines. Et l'ancienne manière de voir, celle d'Aristote, de Ptolémée, ne fonctionnait plus. Et donc, même si Galilée va être traduit en procès par l'Inquisition, et il va être obligé d'abjurer ses conceptions, eh bien en fait, l'Église va perdre cette partie. Il y a des besoins dans la société, avec les grandes découvertes, avec ce qu'on appelle la montée de la bourgeoisie, qui vont être décisifs.
Après l'Égypte, la Chine, le monde musulman, l'Italie, c'est en Angleterre que nous devons aller maintenant. À la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton va démontrer que le mouvement de la Lune autour de la Terre peut s'expliquer par la même force que celle qui fait tomber une pomme sur le sol. Cela permettait en fait d'expliquer presque tous les détails du mouvement des planètes. Et même bien au-delà, car Newton affirme que cette loi physique, qui qui dit que tous les corps matériels s'attirent entre eux de la même manière est valable dans tout l'univers. C'est ce qu'on va appeler la gravitation universelle. Cela aussi, c'était très audacieux quand on y réfléchit. À partir d'un raisonnement, de mesures, et de ce qu'on a pu observer de la surface de notre petite planète dans un coin perdu de l'univers, Newton affirme que la loi qu'il a trouvée est valable dans tout l'univers. Eh bien, depuis, le développement de nos connaissances n'a jamais mis en défaut ce caractère universel de la gravitation, même si on la voit un peu différemment aujourd'hui qu'à l'époque de Newton. Les dieux étaient donc complètement chassés du ciel, puisque la nature devait se plier à une loi physique et pas aux caprices de la volonté divine. Cela n'a pas fait disparaître ni la religion, ni le pouvoir des églises, qui s'appuient sur de solides intérêts. Mais ce n'est pas un hasard qu'à partir de là, un certain nombre d'intellectuels ont commencé à revendiquer une conception entièrement matérialiste, celle d'un univers sans Dieu. Un peu plus tard, au XVIIIe siècle, le philosophe Diderot ou le médecin Lamétrie vont affirmer que la pensée n'était que la propriété de la matière organisée. Ce n'était encore qu'une intuition, car à l'époque, on savait encore peu de choses sur la matière elle-même. Il va falloir attendre le XIXe siècle, avec les progrès spectaculaires de la chimie, pour commencer à comprendre comment elle est organisée. Les chimistes, comme le français Lavoisier, vont montrer que la matière, malgré toute sa diversité, et même la matière vivante qui nous compose, est formée d'un nombre de constituants réduits, toujours les mêmes, carbone, azote, hydrogène, oxygène, fer, etc. Quelques dizaines d'années plus tard, le chimiste russe Mendeleïev pourra faire une synthèse de tout ce que ses collègues chimistes avaient découvert dans sa célèbre table périodique qui regroupe tous les éléments. Et pour revenir vers les étoiles, une découverte fondamentale a aussi eu lieu dans les mêmes années, à la fin des années 1850. On savait depuis Newton qu'on pouvait utiliser un prisme pour décomposer la lumière blanche dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Les Allemands Kirchhoff et Bunsen découvrirent alors qu'en analysant finement les arcs-en-ciel obtenus avec la lumière émise par différents corps placés dans une flamme ou devant elle, on y voyait des raies qui étaient différentes pour chacun d'entre eux. Chaque élément, chaque composé, possédait un véritable code-barre qui permettait de l'identifier. C'est grâce à cette technique extraordinaire, la spectroscopie, qu'on put commencer à connaître la composition du Soleil et des étoiles simplement en analysant leur lumière. Ici, dans la lumière du Soleil, on trouve avant tout de l'hydrogène et de l'hélium. En fait, ce sont les éléments les plus abondants de l'univers. Grâce à cette technique, on peut aujourd'hui savoir de quelles matières sont formés des astres très lointains, tellement loin de nous que leur lumière a mis des millions, voire des milliards d'années pour nous parvenir.
Eh bien, même quand on regarde des étoiles ou des galaxies très lointaines, on n'a pas retrouvé une matière très différente de ce qu'on avait réussi à identifier sur Terre. C'est fondamentalement la même matière partout.
On a compris que l'univers était formé avant tout de gaz, qui était parfois condensé et porté à de très hautes températures, ce qui formait les étoiles. Que ces étoiles se rassemblaient en galaxies, que ces galaxies elles-mêmes se regroupaient en amas, et que ces amas de galaxies forment eux-mêmes de gigantesques dentelles qui semblent être la trame de notre univers.
Et tout cela n'était écrit dans aucun livre sacré. C'est en développant sa maîtrise et sa connaissance des forces de la nature, en l'observant et en agissant dessus, que l'humanité a réussi à progresser, à révéler cette petite partie des secrets de notre univers. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. Rassurez-vous, il va y en avoir un deuxième, et puis un troisième. Et dans le prochain épisode, le deuxième, je vais vous raconter comment on a compris que vous et moi, nous sommes formés de poussière d'étoiles.